Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Faire le plein d'essence est de plus en plus douloureux pour le portefeuille, les prix continuent de grimper et ce n'est probablement pas fini. Dans un instant, les pistes du gouvernement pour aider les gros rouleurs avec Carole Ferry. Un sondage choc Opinionway pour le Cevipof. Il est question d'assistanat, d'immigration, de sécurité. Vous le verrez, les Français se radicalisent. Danielle Thompson, présidente des Césars 2022, sera avec nous dans Europe Midi. La cérémonie sera diffusée sur Canal+ et en direct également sur Europe 1, nouveau partenaire. On sera en direct avec Tony Parker qui a choisi Europe Midi pour parler de sa Tony Parker Academy qui va ouvrir à Saint-Ouen. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je poserai cette question à ce grand basketteur français. Et puis la tendance météo, Anissa Haddadi, avec plus de grisaille cet après-midi.
Oui, je suis désolée Romain, mais il va falloir oublier la très belle journée d'hier, puisque cet après-midi, au nord de la Loire, le ciel va rester très couvert, très gris. Sur la moitié sud, c'est plus ensoleillé. Hein. Ça reste encore une journée agréable, avec quelques brouillards qui traînent et des températures qui restent bien fraîches.
Merci beaucoup Anissa, et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Tous les voyants des prix de l'essence sont au rouge. Gasoil, sans plomb 95, sans plomb 98 et ça continue d'augmenter. Le gasoil, tiens, écoute, en moyenne, hein, 1,67€ le litre. Vous pouvez le trouver un petit peu moins cher et beaucoup plus cher également. 1,75€ le litre pour le sans plomb 95 moyenne également. Jean Castex reçoit en fin d'après-midi Bruno Le Maire. Objectif, trouver une solution pour aider les automobilistes les plus concernés par ces hausses. Carole Ferry avec nous. Bonjour Carole.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui se profile ?
Alors, la solution qui semble tenir la corde, hein, c'est une meilleure indemnisation des frais kilométriques. Cela concerne les automobilistes qui roulent beaucoup pour leur travail. Quand ils déclarent leurs revenus aux frais réels, ils ont droit à une réduction d'impôt en fonction d'un barème qui serait revu à la hausse. Cette mesure concerne environ 2,5 millions de contribuables. Elle a plusieurs avantages. Elle est simple à mettre en place. Pas besoin de faire voter une loi au Parlement, par exemple. Et puis elle concerne bien les Français qui roulent beaucoup pour leur travail. Mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle ne touche que les Français qui déclarent leurs revenus aux frais réels. Donc ceux qui utilisent l'abattement forfaitaire de 10% par exemple ne sont pas concernés, ni les Français qui ne payent pas d'impôts. Mais Bercy rappelle que les plus modestes ont déjà touché la prime inflation de 100€. Et puis viser les plus modestes qui utilisent bien leur voiture pour aller travailler revient à mettre en place une véritable usine à gaz. Ce n'est donc pas envisagé pour le moment. Alors rien n'est toutefois définitivement tranché. On devrait avoir une réponse d'ici peut-être ce soir ou d'ici la fin de la semaine.
Carole Ferry, merci beaucoup Carole pour ces informations. Parce que s'il y a bien un prix que tous les Français voient tous les jours ou presque, c'est celui de l'essence, hein. On le voit affiché sur les grands panneaux des stations-service, de centre-ville ou de supermarché. Et tous les automobilistes y jettent toujours un petit coup d'œil quand ils passent devant. En tout cas, c'est mon cas. Alors quand ça augmente comme ça, il faut un coup de pouce de l'État ou pas ? Est-ce qu'il faut baisser les taxes ? Qu'en dites-vous ? On vous a posé la question ce matin dans la capitale. Écoutez.
Tout ce qui peut effectivement réduire un petit peu les impôts, on ne va pas cracher dessus. Oui, oui, l'indemnité kilométrique me convient. J'ai quand même des revenus conséquents, donc je ne peux pas dire que je ne peux pas les payer. Mais enfin, si tout augmente, effectivement, au bout d'un moment, je vais peut-être le ressentir.
Ça permet de soulager un peu nos dépenses. Un peu. L'essence coûte énormément cher.
Je pense que tout ce qui va dans le sens du pouvoir d'achat des Français est bon à prendre. Après, je pense que ce serait peut-être mieux d'abaisser la fiscalité globale sur l'essence pour que tous les Français puissent y avoir accès et pas seulement ceux qui l'utilisent pour le boulot. Ce serait peut-être plus simple aussi à mettre en place.
Voilà, le gouvernement donc devrait donner des et faire des annonces hein, dans les heures qui viennent, nous disait à l'instant Carole Ferry, ou en tout cas avant la fin de la semaine. Il est 12h34, je voulais qu'on parle également dans Europe Midi de ce sondage Opinionway pour le Cevipof, un centre de recherche politique qui dépend de Sciences Po. Ce qui est frappant dans cette étude, qui est à la une du Figaro ce matin, c'est la demande d'autorité de la part des Français. On est en direct avec Bruno Cotterêss. Bonjour Bruno Cotterêss.
Bonjour.
Du Cevipof, beaucoup d'informations, d'enseignements dans cette grande enquête. Déjà sur l'immigration, les Français sont 63% à estimer qu'il y a trop d'immigrés en France, plus 3 points en quasiment un an. Hein. 61% estiment que l'islam est une menace pour la République. Tous ces indicateurs sont en hausse hein, ces derniers mois.
Oui, tous ces indicateurs sont en hausse, même si c'est une tendance qu'on constate, nous, année après année, puisque c'est une enquête annuelle. Cette année, nous lui avons donné une ampleur exceptionnelle avec plus de 10 000 personnes qui ont été interrogées, mais c'est une tendance qu'on trouve depuis plusieurs années. Et effectivement, on voit que cette année, eh bien, la tendance s'accentue sur la demande de fermeture. On a aussi demandé aux Français s'ils pensaient qu'il fallait que la France se ferme davantage. Sur le plan économique, il n'y a que 28% qui disent oui. Par contre, sur le plan migratoire, il y a 62% qui disent oui. Donc, on voit effectivement tout un tas de tensions qui sont dans la société française aujourd'hui sur ces questions de l'ouverture de la société française.
Des tensions sur les questions d'ouverture de la société française, également sur les questions économiques et sociales. Je lis, l'économie actuelle profite aux patrons, aux dépens de ceux qui travaillent. 73% des Français disent oui.
Et oui, vous savez, on parle beaucoup de la droitisation de la société française. Elle est incontestable sur les thématiques eh bien, de la loi et de l'ordre, de la sécurité intérieure, de l'immigration. Mais il y a en même temps, coexiste en même temps dans l'opinion publique en France, une forte demande d'égalité, de justice sociale. Les Français perçoivent la société française comme une société injuste, qui ne rétribue pas le mérite, avec une forte demande de protection, et non seulement de protection sur les frontières, mais aussi de protection sociale.
Oui, protection sociale et égalité. Parce que sur l'assistanat, je lis toujours votre enquête, passionnante. 60% des Français estiment que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. C'est un peu ce que disait Emmanuel Macron au début de son quinquennat. Je vous trouve du travail rien qu'en traversant la rue. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Alors c'est vrai que cette opinion, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, elle est plus pratiquement du domaine, on va dire, moral que du domaine socio-économique. C'est un indicateur aussi du sentiment que la société française eh bien, ne tourne pas rond, que les choses ne vont pas droit, effectivement. Mais effectivement, on a clairement cette remise en cause, effectivement, de l'assistanat. C'est plutôt l'idée qu'il faudrait que les chômeurs se bougent pour trouver du travail qui est exprimé.
Alors, on est en période présidentielle, évidemment, je vous l'apprends pas, pré-présidentielle. Quel est le candidat ou la candidate qui se rapproche le plus de ce que désirent les Français au vu de votre étude.
Mais c'est ça qui est à la fois passionnant et complexe. Il n'y a pas de candidat qui réunisse à lui seul l'ensemble des interrogations, l'ensemble des questions que se posent les Français aujourd'hui sur la société française. On l'a dit, il y a à la fois une demande d'ordre et de sécurité, mais il y a aussi une demande de justice sociale et d'égalité. Et tout le monde n'est pas d'accord sur ce que veut dire une société juste. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce que veut dire une société où il y a de l'ordre et où il y a de la sécurité. Donc il n'y a pas de candidat qui réunisse à lui tout seul. Et c'est ça qui fait le côté extrêmement incertain de cette élection. Les Français ont de fortes attentes. Parfois, ces attentes sont contradictoires et les candidats essayent la quadrature du cercle, c'est-à-dire de répondre un petit peu à tout ça en même temps. C'est pas simple.
Merci beaucoup Bruno Cotterêts. C'est pas simple, effectivement. Mais à mon avis, les candidats vont regarder en détail votre étude. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Justement, le président de la République, lui, poursuit sa visite en territoire rural. Il est actuellement à Saint-Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne, un président en pré-campagne. Jacques Serret en direct avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour Romain.
Racontez-nous, il y a eu rencontre avec la population ce matin et à l'instant, le président de la République vient de parler de services publics ruraux.
Oui, Emmanuel Macron, tout sourire, qui prend son temps sur la place du village et qui va à la rencontre des habitants.
Merci de l'accueil dans votre belle commune.
Bonjour monsieur.
Comment ça va ?
C'est possible d'avoir une petite autographe monsieur ?
Bien sûr.
Et comme hier, dans la Creuse,
vous êtes en quoi, là ?
Et comme hier, dans la Creuse, il n'échappe pas à la question de sa candidature.
Pensez-vous représenter M. Macron ?
Comme j'ai dit, j'ai plutôt envie.
J'ai plutôt envie. Vous me conseillez quoi ? S'amuse le chef de l'État. La campagne est dans tous les esprits. Et ici, où la voiture est indispensable, ce sont les prix du carburant qui inquiètent. Emmanuel Macron tente alors de répondre aux préoccupations.
À court terme, le Premier ministre a annoncé il y a quelques semaines des mesures d'accompagnement. Il faut que ces mesures, si on veut que ça puisse toucher nos compatriotes, elles soient effectives. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et la question va se poser pour le gouvernement de savoir s'il faut faire davantage.
Plus d'une heure de bain de foule avant de se rendre dans la maison France Service de cette ville de 4600 habitants, un espace qui regroupe au moins 9 services publics. Le locataire de l'Élysée s'exprime en ce moment même devant des agents de la fonction publique. Il veut, je le cite, mettre beaucoup plus de fonctionnaires sur les territoires. ou comment se placer face à son adversaire des Républicains, Valérie Pécresse.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. Il est 12h39, bruit de bottes à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Le président de la République, justement, Emmanuel Macron, se rendra à Berlin ce soir. Il s'agit d'essayer de trouver une réponse commune, franco-allemande, à ce qui se passe actuellement à la frontière. Vladimir Poutine a envoyé des militaires pour peut-être attaquer l'Ukraine. On en parle dans un instant, à tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h42, se dirige-t-on vers une guerre aux portes de l'Europe ? Emmanuel Macron se rend cet après-midi à Berlin pour y rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz. Entretien d'une heure en tête-à-tête prévu de longue date. Mais évidemment, le sujet ukrainien va s'inviter dans la discussion. La tension est très forte entre la Russie et l'Ukraine avec des manœuvres militaires à la frontière. William Molinier avec nous dans Europe Midi. En allant à Berlin, William, Emmanuel Macron a, vous nous dites, un triple objectif.
Oui, d'abord s'assurer que les Allemands ont la même analyse que les Français sur le dossier ukrainien, ce qui n'est pas forcément évident car le successeur d'Angela Merkel est à la tête d'une coalition divisée face à la Russie. Deuxième sujet, répondre à une question en apparence simple mais lourde de conséquences. Jusqu'où le couple franco-allemand est-il prêt à aller si les Russes envahissent l'Ukraine ? Un conseiller du président nous confiait hier soir que la réponse à ce scénario serait massive. Enfin, dernier objectif, tenter de remettre la France et plus largement l'Europe au centre du bras de fer entre Joe Biden et Vladimir Poutine. À l'Élysée, on veut croire qu'il y a un espace pour la désescalade. Emmanuel Macron aura dans les prochains jours un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Et demain, les diplomates français, allemands, ukrainiens et russes vont se retrouver à Paris autour de la table pour amorcer des négociations qui pourraient porter sur des mesures humanitaires comme l'échange de prisonniers ou l'ouverture de checkpoints. Reste à savoir si les Russes sont prêts à jouer le jeu en s'engageant par exemple à stopper les cyberattaques en Ukraine ou en faisant des déclarations publiques pour rassurer sur leurs intentions aux portes de l'Europe.
Merci William Molinier. Cette information qui tombe à l'instant, l'Ukraine affirme avoir démantelé un groupe agissant sur ordre de Moscou et qui préparait des attaques armées pour, je cite, déstabiliser des régions du pays. Tension extrême donc autour de l'Ukraine. Il est 12h44, on change totalement de sujet. Écoutez bien, ça peut vous simplifier la vie si vous prenez le train évidemment. Avant, il y avait plusieurs applications sur les smartphones. Une pour s'informer, une pour réserver. Il faut avouer que ce n'était pas bien facile, bien simple. Désormais, tout est réuni sur SNCF Connect. Aurélien Fleureau, avec nous dans Europe Midi. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette nouvelle application SNCF qui est en service depuis ce matin ? Dites-nous.
Alors, vous aurez d'abord un accès simplifié pour votre recherche. Fini les cases départ, arrivée, gare, date, etc. Vous formulez simplement une demande, comme sur un moteur de recherche. Paris-Nantes, départ vendredi. Et si vous avez connecté votre compte SNCF, eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, l'algorithme va vous proposer les meilleurs tarifs et les places disponibles pour ce vendredi 28 janvier entre Paris et Nantes. Simplification aussi dans la jungle des correspondances, explique Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect.
Vous faites un trajet avec correspondance, avec TGV plus TER. Ce que l'on fait à travers SNCF Connect, c'est de masquer le fait que vous ayez deux dossiers voyage et on vous présente un parcours unique, ce qui permet, si vous êtes dans une situation ensuite d'après-vente, donc un besoin d'échange ou de remboursement, que vous n'oubliez pas un des deux dossiers parce que vous annulez tout d'un coup votre voyage dans cette région spécifiquement.
Jusqu'à 350 personnes ont travaillé depuis 2 ans sur ce nouveau service numérique aux couleurs bleu nuit que vous pouvez découvrir depuis ce matin. Les mises à jour sont disponibles et la bascule se fait automatiquement donc vers SNCF Connect.
Aurélien Fleureau, merci beaucoup Aurélien. Il est 12h46.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
Le 25 février prochain, ce sera la 47e cérémonie des Césars. Un événement à suivre en direct et en clair sur Canal+, mais, et c'est une nouveauté, également en direct et en intégralité sur Europe 1. Demain matin, on connaîtra la liste des nominations, mais l'Académie vient de révéler le nom de celle qui sera la présidente de cette cérémonie. C'est Danielle Thompson, scénariste et réalisatrice des plus grandes comédies françaises, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Rabbi Jacob, pour ne citer que ces 3 films. Vous êtes avec nous, Danielle Thompson. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur Europe 1 et de nous réserver vos premières paroles. Comment est-ce que vous envisagez ce rôle de présidente ?
J'essaye de me décontracter le plus possible. et de l'envisager avec beaucoup de plaisir. C'est une cérémonie que j'ai toujours beaucoup aimée et qui, j'espère, va de nouveau faire rêver beaucoup de générations de comédiens, parce que c'est ça que je trouve magnifique dans ce principe des Césars, c'est que voilà, on entend souvent des jeunes comédiens ou des vieux comédiens d'ailleurs qui vous disent qu'ils ont regardé cette cérémonie quand ils étaient enfants et que ça leur donnait envie de faire du cinéma. Donc j'espère que c'est comme ça que ça se passera.
L'an dernier, la fête avait été un petit peu gâchée, notamment à cause de la pandémie. Cette année, vous souhaitez que ce soit un petit peu plus festif ?
J'espère de tout mon cœur qu'on pourra être d'abord présent et qu'il y aura une grande salle pleine de monde, même si on portera probablement encore des masques, mais au moins, on sera là tous ensemble et c'est toujours beaucoup plus chaleureux quand on arrive à se retrouver dans une grande salle et notamment d'ailleurs dans les salles de cinéma.
Quels sont vos films préférés pour 2021, tiens ?
Ah ben ça, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire, mais j'ai vu des très bons films qui ont été faits cette année. Et il y a une grande diversité de films, et comme Thaïs, qui représente d'ailleurs le cinéma français. C'est ça qui est formidable, de rappeler aux gens à quel point, finalement, en France, on fait des beaux films. Hein, toujours,
oui.
On y arrive.
L'Académie rendra hommage aux disparus, évidemment. Jean-Paul Belmondo, Gaspard Ulliel.
Bien sûr. Je sais qu'il y aura forcément des hommages pour ces merveilleux comédiens qui sont partis... dans des circonstances démentes, d'ailleurs, en ce qui concerne ce merveilleux jeune Gaspard Ulliel. Concernant Jean-Paul, je suis contente parce que il y aura effectivement un hommage et que je vais tourner avec son petit-fils qui m'enchante.
L'invité d'honneur sera l'actrice américaine Cate Blanchett. Tiens, est-ce que vous la connaissez ?
Je l'ai croisée à Cannes quand elle était dans le jury, je crois présidente d'ailleurs du jury, il y a 3 ans. Et je serais très heureuse de la re-rencontrer. J'ai beaucoup d'admiration, j'ai vu énormément de ses films, presque tous, je pense. Et je serais ravie de la rencontrer, de la croiser sur le plateau et peut-être après pour dîner avec elle.
Merci beaucoup, Danielle Thompson. Je sais que vous êtes en repérage, hein. Vous continuez, vous travaillez, vous préparez les prochains films. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1, Danielle Thompson. Ce sera donc en direct le 25 février sur Canal+ et sur Europe 1. Les Césars, avec une grande soirée spéciale sur Europe 1, animée par Frédéric Taddeï. Merci beaucoup, Danielle Thompson. Très bonne
Merci
journée à
vous.
Au revoir.
Au revoir.
Il est 12h49. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de la Tony Parker Academy. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
Il est 12h52, on va parler de la Tony Parker Academy. Elle va s'installer, cette académie du basket, mais pas uniquement, vous allez voir. Elle va s'installer à Saint-Ouen, près de Paris, après les JO de 2024. Et ça vient de se décider. On est en direct avec le maire de Saint-Ouen, Karim Bouanran. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour, vous allez bien ?
Très bien, et vous ? Merci d'être avec nous dans Europe Midi. C'est un événement, j'imagine, d'accueillir la Tony Parker Academy après donc les JO de 2024. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça va être exactement ? Ce que je disais, ça va être du basket, mais pas uniquement. Hein.
Non, ça va être un lieu de... Tout d'abord, c'est vraiment une rencontre humaine, parce qu'on s'est rendu compte rapidement, au bout de quelques heures d'échange avec Tony, qu'on partageait les mêmes valeurs républicaines, des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de travail, d'humilité, de générosité et vraiment de fraternité. Et ce projet, c'est la cristallisation de toutes ces valeurs. Alors, ce sera quoi concrètement ? Ce sera un lieu qui incarnera la démocratisation de l'excellence sportive, éducative et culturelle. Sur le sportif, à partir du moment où vous êtes très très fort dans la discipline du 3-3, c'est le basket 3-3, oui. Le paddle, mais aussi le basket et la boxe, et éventuellement d'autres disciplines qui s'intégreront avec le tissu associatif local, vous pourrez intégrer cette académie. On va former des champions, des championnes et des champions, premièrement, mais aussi des citoyennes et des citoyens, parce qu'il y aura une valeur ajoutée éducative extrêmement forte. Et à terme, l'objectif, parce que quand vous regardez l'île des Vannes, c'est une nef qui a été créée en 1971 par l'architecte Knop et Chazanov, ces deux architectes. Ça a abrité historiquement énormément de concerts, type Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Pink Floyd. Et l'objectif, justement, c'est de renouer avec cette tradition culturelle qui nous a caractérisés et qui nous a permis de rayonner pour renouer avec cette culture de concert. Et dernier point, ça va bénéficier pour tout un pan de notre territoire, à savoir... un projet d'aménagement urbanistique, par exemple, en lien avec la métropole du Grand Paris, le département, la région. On va réaménager complètement les berges et les passerelles qui vont nous permettre d'être en lien avec le reste de la ville.
Ça sera sur l'île des Vannes, voilà, et ça vient d'être décidé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Karim Bouenran, maire de Saint-Ouen, près de Paris. Tiens, Tony Parker, qui donne son nom à cette académie qui va ouvrir dans quelques années à Saint-Ouen, est un grand copain de Gaël Monfils, Axel May. Hein.
Ah oui, oui. Ouais. Et si vous parlez de ça, c'est parce que vous voulez que je parle de Gaël Monfils, peut-être ?
Eh bien oui, Gaël Monfils qui affronte l'Italien Berrettini en ce moment à l'Open d'Australie de Melbourne. Monfils a perdu le premier set. Hein.
Et il a même perdu le deuxième set. Ouais. Il est donc en quart de finale pour la 10e fois de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Gaël Monfils, 35 ans, Berrettini 25 ans, Monfils numéro 20 mondial, Berrettini numéro 7 mondial. Il a perdu la première manche 6-4, gros service de Berrettini. La deuxième manche, une heure de jeu avant qu'il ne perde Monfils. Et il y a notamment eu le quatrième jeu qui a duré 20 minutes, c'est beaucoup. Alors est-ce que ça a été l'effort de trop consenti pour Monfils ? Il a donc perdu la deuxième manche 6-4. Mais attention, dans le troisième set, il mène 2-1. Pour l'instant, c'est Berrettini qui sert. Donc voilà, on est en plein dans le match. C'est la folie d'après ce qu'on voit du côté de Melbourne. Et puis demain, on aura aussi Alizée Cornet. Hein, demain matin, la dernière française représentant le clan tricolore.
Merci beaucoup Axel. Le temps, non pas à Melbourne, hein, mais bien en France, 12h56 avec vous Anissa Haddadi. C'est une journée moins ensoleillée qu'hier au programme. Hein.
Oui, surtout pour la moitié nord du pays. Alors ça concerne la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, le Centre-Val de Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France, la Champagne, les Ardennes, dans toutes ces régions. Les brouillards de ce matin, qui étaient nombreux, hein, sont vraiment tenaces. Ils ont du mal à se dissiper, donc on a un ciel qui reste bien bouché toute la journée au nord de la Loire, avec des rayons du soleil qui auront vraiment du mal à percer. Au sud de la Loire, là, la journée est bien plus agréable et lumineuse, avec un soleil radieux sur les Alpes, la vallée du Rhône, l'Auvergne. Ailleurs, nous aurons quelques passages nuageux, et c'est en Occitanie, au bord de la Garonne, hein, sur le Val-de-Saône également, et puis dans le Poitou, que les nuages bas de ce matin restent encore présents. Alors, côté température, eh bien, c'est frais encore aujourd'hui, avec seulement 2 degrés pour Orléans et Amiens, 4 à Paris, Lorient, Lille et Strasbourg, 5 à Quimper, 6 pour Besançon et Brest, 10 degrés à Bordeaux, 13 à Marseille, Nîmes et Toulon, et 14 degrés la maximale pour Nice, Ajaccio ou encore Tarbes.
Merci beaucoup Anissa, il est 12h57. Dans un instant, c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Dutheil. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. À demain, très bon après-midi sur Europe 1.